We're going to start. The next business is...
Nous allons reprendre nos travaux et nous allons maintenant avoir un examen des activités passées et futures du comité politique et de la sous-commission sur les partenariats de l'OTAN et les relations transatlantiques. L'année prochaine, notre rapport portera sur les aspects politiques de la révision du concept stratégique de l'OTAN. Cela se fera en regardant également les aspects militaires. Lorsque nous avons tenu notre réunion de coordination, avant la veille de l'ouverture de cette réunion, on s'est rendu compte que plusieurs commissions souhaitaient s'intéresser au concept stratégique. Je pense que c'est inévitable. C'est la première fois que ce concept va être révisé en 10 ans. Et je pense que il est important de voir ce que nos commissions peuvent apporter comme contribution. Je vais demander au président des deux sous-commissions de prendre la parole pendant quelques instants, mais je voudrais simplement vous rappeler que toute la commission est invitée à la réunion traditionnelle du mois de février. La dernière réunion a eu lieu il y a 18 mois et en février, cela fera donc 2 ans que la commission ne s'est plus réunie. Ce sont des réunions vraiment importantes. Ce sont des réunions qui sont essentielles. Elles permettent aux membres des délégations de se réunir et de se pencher sur nos activités et sur notre contribution au débat. Je voudrais maintenant donner la parole à Karl Lammers qui va nous parler des activités futures de la sous-commission qu'il préside. Et avant de lui donner la parole, je ne sais pas si vous vous souvenez de Dame Lally Lunder, qui avait fait énormément de discours d'adieu. Alors, au nom de la commission, je voudrais dire combien j'ai apprécié votre participation. Merci pour tout ce que vous avez apporté à cette assemblée. Vous allez nous manquer, mais nous nous souviendrons de vous et de tout ce que vous avez apporté à notre assemblée. Et je pense que maintenant, étant donné que vous êtes parti, plus personne ne va oser remettre en question tout ce que vous allez nous dire. Je vous donne la parole pour le rapport de votre sous-commission. Merci, Monsieur le Président, chers collègues, chers amis. Merci de me donner l'occasion de vous présenter le plan pour les activités futures de la sous-commission sur les partenariats de l'OTAN. Nous avons encore 2 visites prévues cette année. Tout d'abord, nous allons participer à la réunion du Conseil interparlementaire OTAN, Ukraine, à Odessa, les 26 et 27 octobre. Tous les membres de notre commission, pas uniquement du PCNP, sont invités à participer à cette rencontre. Les membres de ce Conseil interparlementaire participeront aussi à cette réunion unique. Nous allons écouter des experts et des représentants ukrainiens. Ils vont nous parler de l'agenda de réforme ukrainien et ils nous parleront en particulier de la situation sécuritaire dans la région de la mer Noire. Nous aurons également l'occasion de participer à la conférence du Fonds Marshall, le débat aura pour objectif de d'établir un dialogue entre l'Ukraine et les partenaires transatlantiques. Ensuite, notre sous-commission va également participer au séminaire de Barcelone les 19 et 20 novembre. Nous avons un excellent programme et nous allons aborder beaucoup de questions sécuritaires dans la région qui va du Sahel jusqu'en Iran. En 2022, notre rapporteur Sonia Crimi a décidé de se pencher sur une question importante pour notre alliance, à savoir l'accent qui est mis de plus en plus sur la région Indo-Pacifique. Nous allons réfléchir au rôle que l'OTAN pourrait jouer dans cette partie du monde. C'est la raison pour laquelle nous aimerions proposer une visite en Corée du Sud pour avoir des informations en direct de la région. Là, pour la deuxième visite, nous aimerions parler de la mer Noire. C'est la raison pour laquelle nous proposons une visite en République de Moldova, qui connaît actuellement une transformation importante. Un président et un parlement pro-européen ont été élus. Ce pays, qui ne cherche pas officiellement l'adhésion à l'OTAN, est un partenaire important et il mérite toute notre attention et tout notre soutien dans ce processus de réforme. Outre ces deux visites, notre sous-commission, comme d'habitude, participera aux réunions du Conseil interparlementaire OTAN Géorgie à Bruxelles et en Ukraine. Je terminerai cette brève intervention, cher Président, en disant que cela a été un énorme privilège pour moi d'être président de cette sous-commission. Et donc, je vous remercie, vous, tout d'abord, Monsieur le Président, Lord Campbell, merci pour votre travail exceptionnel à la tête de cette commission politique. Merci aux membres de cette sous-commission et de la commission politique, et un tout grand merci aussi à notre formidable directeur pour son travail. Merci de nous avoir soutenus de manière extraordinaire. Nous avons accompli de grandes choses malgré la pandémie. Et c'est avec regret que je quitte cette sous-commission et bien évidemment cette formidable assemblée. Mais je suis convaincue que la nouvelle génération de l'Assemblée parlementaire de l'OTAN et des dirigeants politiques poursuivra le travail et continuera à porter les signes très positifs de notre Assemblée. Merci beaucoup. J'invite maintenant Lord Hamilton à prendre la parole pour la deuxième sous-commission. Merci beaucoup. Je voudrais remercier le Dr Karl Lammers pour tout ce qu'il a fait pour l'Assemblée parlementaire de l'OTAN pendant toutes ces années. Nous allons, il va beaucoup nous manquer et il va laisser un grand vide. Pendant le confinement, il m'a dit qu'il avait perdu 30 kilos. Donc, le vide sera peut-être moins grand que par le passé. En tout cas, je lui souhaite beaucoup de réussite et il sera sûrement impliqué dans d'autres groupes de réflexion et sa contribution sera toujours la bienvenue. La sous-commission sur les relations transatlantiques visitera la Lituanie les 8 et 9 novembre. Avec la Commission économique et sécurité. Nous allons rencontrer de hauts fonctionnaires qui se pencheront sur des questions comme la guerre hybride, la Russie, la sécurité énergétique. Ils ont critiqué les Chinois pour leur manque de respect des valeurs démocratiques et ils ont souffert de conséquences. Ensuite, le dictateur biélorusse, Loukachenko, a instrumentalisé l'immigration en provenance du Moyen-Orient pour mettre la pression sur la Lituanie, la Lettonie et la Pologne. Et pendant la visite, nous aurons donc l'occasion de parler de la façon dont ce problème a été abordé en Lituanie. Nous allons également parler de la situation au Bélarus avec des personnes qui se sont exilées. Et ce sera donc une visite extrêmement intéressante et j'encourage vraiment ceux qui ne se sont pas encore inscrits à cette visite de le faire. S'agissant de l'année 2022, notre rapporteur Ahmet Yildiz nous fera un rapport de la situation en Afghanistan. Je ne l'envie pas, cette tâche est difficile. Et le retrait d'Afghanistan a été tout sauf une réussite. Et je pense que personne n'est vraiment fier de la façon dont ce retrait a été organisé. Mais nous verrons s'il y a des enseignements à tirer pour des opérations futures dans lesquelles nous pourrions être impliqués. S'agissant des visites, nous sommes en contact avec la délégation néerlandaise pour visiter le pays. La visite était prévue pour le début de l'année 2020. Évidemment, elle a été reportée à cause de la pandémie. Nous proposons également une visite aux États-Unis, probablement Washington DC et San Francisco. J'aurais aimé aussi rajouter San Diego dans l'équation, ça pourrait même être plus intéressant, mais tout cela sera ouvert au débat. Toutes ces visites seront certainement très utiles pour nos rapports, le rapport sur la région Indo-Pacifique, sur l'Afghanistan, sur les priorités de l'OTAN, dans le contexte de nouveaux concepts stratégiques. Merci beaucoup. Et je voudrais également remercier mon collègue Lord Campbell pour tout le travail qu'il a fait à la tête de cette commission politique. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Avez-vous des questions à poser, soit au Dr Lammers, soit à Lord Hamilton? Monsieur Alzubalas de Lituanie souhaite intervenir? Oui, où êtes-vous? Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais juste dire à nos collègues que, en tant que membre de la commission sécurité, nous sommes en train de préparer un programme très intéressant, plusieurs entretiens seront possibles, plusieurs débats pourront avoir lieu avec de hauts fonctionnaires. Vous aurez également des contacts avec des ONG qui sont également impliquées, notamment dans la lutte contre la guerre hybride. On utilise de plus en plus des personnes, la population comme arme et donc on pourra débattre de tous ces sujets. Merci beaucoup, merci pour ces encouragements. Les visites dans les États baltes sont toujours extrêmement intéressantes. C'est mon point de vue personnel et j'encourage vraiment ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion de se rendre dans ces pays-là de saisir cette opportunité. Je pense que nous pouvons conclure ce point à l'ordre du jour concernant nos activités futures et pour notre matinée, il nous reste à nous pencher sur le projet révisé de rapport sur le lien transatlantique et le partage des charges. Ahmet Yildiz va donc nous parler du lien transatlantique et du partage des charges dans un environnement stratégique en mutation. Vous avez reçu une copie de ce projet de rapport et je donne directement la parole au rapporteur qui pourra bien évidemment écouter vos contributions après sa présentation du rapport. Je vous donne la parole. Merci, Monsieur le Président. C'est un plaisir d'être ici pour vous présenter ce rapport après Sonia. C'est elle qui a reçu toutes les questions les plus difficiles. Donc, chers collègues, C'est un plaisir d'être ici avec vous et de tous vous rencontrer en personne après une si longue période. Je suis heureux de vous présenter aujourd'hui le projet révisé du rapport sur une question très importante, le lien transatlantique et le partage de la charge dans un environnement stratégique en mutation. Ce rapport examine les moyens de rajeunir le lien transatlantique et de rechercher un partage plus équitable de la charge entre les alliés dans le contexte de l'agenda OTAN 2030 et de la révision prochaine du concept stratégique de l'OTAN. Chers collègues, nous devons nous rendre à l'évidence. Notre relation transatlantique, unique et précieuse, est aujourd'hui mise à l'épreuve par le monde en mutation qui nous entoure. La montée en puissance de la Chine, les enseignements à tirer de notre mission en Afghanistan, l'impact mondial dévastateur de la pandémie Covid-19, la guerre hybride de la Russie, l'instabilité persistante au Moyen-Orient, la prolifération des nouvelles technologies perturbatrices et les effets du changement climatique sont autant de défis qui façonnent notre environnement stratégique. Nous devons nous y adapter et nous devons faire face à ces menaces ensemble en tant qu'alliance. Si le paysage sécuritaire actuel peut sembler écrasant, je suis convaincue que notre alliance trouvera le moyen de s'y retrouver, comme nous l'avons toujours fait par le passé. Malgré les différences occasionnelles entre les alliés, lorsque l'Alliance est confrontée à des défis majeurs, elle a tendance à resserrer les rangs et à relever ces défis dans un esprit de solidarité. Et la réponse à la pandémie de Covid-19 en est un bon exemple. Au cours de cette crise sanitaire sans précédent, l'Alliance a démontré sa capacité à coopérer efficacement. Comme vous le savez, cette collaboration, qui comportait une dimension transatlantique, s'est déroulée à la fois dans le cadre de l'OTAN et au niveau bilatéral. Et elle a consisté à déployer des troupes pour soutenir les efforts civils et à coordonner la fourniture de matériel médical et d'autres aides essentielles, ainsi qu'à contrer les efforts de désinformation des acteurs malveillants. Il sera important que les alliés s'engagent davantage dans le multilatéralisme afin de préserver l'ordre fondé sur les règles et de relever les défis de sécurité traditionnels et émergents. Pour relever ces défis, pendant que les économies se remettent de la pandémie, nous devrons faire plus avec des ressources limitées, en utilisant tous les outils disponibles. Et par conséquent, la consultation et la coopération politique qui ont été soulignées par le ministre hier deviendront de plus en plus cruciales. Le nouveau gouvernement américain, la nouvelle administration américaine a déclaré son engagement en faveur du multilatéralisme. Cela offre d'importantes possibilités de revigorer les relations transatlantiques. Ces dernières années, des questions ont été soulevées de ce côté-ci de l'Atlantique quant à un éventuel glissement des intérêts stratégiques des États-Unis au détriment de l'Europe. Or, à bien des égards, l'engagement des États-Unis dans la défense européenne n'a fait que croître ces dernières années. Et malgré la place centrale qu'occupe la Chine dans la politique étrangère de son administration, depuis son entrée en fonction, le président Biden a pris des mesures fermes pour rassurer les alliés sur la volonté américaine de jouer un rôle de premier plan sur la scène mondiale et de jouer un rôle important dans les institutions internationales telles que l'OTAN. Plus récemment, lors du sommet de Bruxelles, le président Biden a souligné une fois de plus l'importance cruciale de l'Alliance pour les intérêts nationaux des États-Unis et le fait que les Américains considèrent l'article 5 du traité de Washington comme sacré. Ensemble, ces facteurs créent une fenêtre d'opportunité pour ouvrir un nouveau chapitre dans les relations transatlantiques. Le moment est venu de consacrer à nouveau l'Alliance à nos valeurs communes et de mieux aligner nos visions, parfois divergentes. Au sommet de Bruxelles, les dirigeants alliés ont pris des mesures importantes à cet égard, notamment en approuvant les 8 priorités du programme OTAN 2030. La révision du concept stratégique de l'OTAN sera une nouvelle occasion pour les alliés de renforcer le lien transatlantique grâce à un programme approuvé conjointement fondé sur des valeurs démocratiques communes, ambitieux et adapté à l'évolution de l'environnement mondial. Dans ce contexte, le projet de rapport explore les voies possibles pour faire progresser notre coopération transatlantique. J'aimerais souligner ici certaines recommandations spécifiques qui sont mentionnées dans le rapport. Premièrement, il est essentiel que les alliés renforcent leur engagement en faveur de la solidarité transatlantique sur la base des trois tâches fondamentales de l'OTAN et de leurs valeurs démocratiques communes qui constituent le fondement de notre alliance. À cet égard, l'OTAN devrait envisager la création d'un centre sur la résilience démocratique au sein de sa structure institutionnelle, comme cela a été proposé par le président de l'Assemblée parlementaire, Gerald E. Connolly. Ce centre servirait de ressource pour surveiller les menaces pesant sur la démocratie et permettrait d'aider les alliés sur demande. Il est également possible de renforcer la dimension politique de l'OTAN en élargissant la portée de la consultation politique, et ceci dans le but d'accroître le dialogue, de réduire au minimum les tensions internes et de rendre l'alliance plus cohérente. Nous devrions renforcer le rôle de l'OTAN en tant que forum indispensable pour les consultations transatlantiques, notamment en précisant et en mettant en œuvre les décisions pertinentes prises à Bruxelles au mois de juin. Deuxièmement, garantir des niveaux adéquats de financement de la défense, conformément aux objectifs de 2% et de 20% réaffirmés au sommet de Bruxelles, sera essentiel pour relever les défis complexes auxquels l'Alliance est confrontée dans le monde après Covid et pour fournir le contexte de sécurité nécessaire à leur reprise économique. Les alliés devraient également examiner plus avant la possibilité d'accroître le financement commun de l'OTAN et donner suite à leur décision de stimuler la coopération transatlantique en matière d'innovation et de défense par le biais de l'initiative Diana et d'un fonds d'innovation de l'OTAN. Au-delà, il est légitime d'envisager de nouveaux moyens potentiels pour assurer un partage plus équitable de la charge. En particulier, le rôle des pays situés le long des flancs de l'Alliance devrait être reconnu, car ces pays sont directement confrontés à diverses menaces, comme le terrorisme et les menaces hybrides. Et ils méritent une aide plus substantielle et des signaux de solidarité plus forts. Je crains que ces menaces soient encore plus importantes à l'avenir.
Influence.
Troisièmement, l'influence croissante de la Chine et ses actions récentes de plus en plus affirmées, notamment dans le contexte de la pandémie et de l'oppression des Ouïghours turcophones, ont conduit à une convergence croissante des points de vue européens et nord-américains sur la Chine, comme en témoignent les conclusions du sommet de Bruxelles de 2021. Et le communiqué du G7 qui a suivi le dernier sommet. L'articulation de ces éléments d'une position commune offre l'occasion de développer une stratégie transatlantique commune, elle aussi, et plus cohérente sur la Chine. Cette stratégie commune aurait tout intérêt à se concentrer sur la notion de concurrence plutôt que de confrontation. Cette approche permettrait aux alliés de protéger leurs intérêts et de promouvoir leurs valeurs tout en évitant le début d'une nouvelle guerre froide. Quatrièmement, l'OTAN devrait poursuivre ses efforts pour nouer un partenariat significatif avec l'Union européenne. La relation OTAN-Union européenne est une composante essentielle du lien transatlantique et la sécurité européenne continue de dépendre de l'engagement de l'Amérique du Nord. Cela dit, l'OTAN devrait se féliciter des efforts déployés par l'Union européenne pour mettre en place une capacité de défense européenne plus forte et plus performante grâce à des instruments tels que le Fonds européen de défense et la coopération structurée permanente, pour autant que ceci contribue à un partage transatlantique équitable de la charge et implique pleinement les alliés européens non membres de l'Union européenne. À cet égard, la décision de l'Union européenne d'approuver la participation des États-Unis, de la Norvège et du Canada au projet de mobilité militaire de la CSP est une première étape bienvenue, mais le caractère inclusif des projets de la coopération structurée permanente sera mis à l'épreuve par la réaction de l'Union européenne à la demande de la Turquie de rejoindre le projet de mobilité militaire. L'inclusion des alliés non membres de l'Union européenne dans les cadres de coopération entre l'OTAN et entre les États-Unis et l'Union européenne dans les domaines du commerce et de la technologie et de l'environnement est également essentielle. Je répète que quand nous parlons de sécurité européenne, on ne parle pas seulement de la sécurité des États membres de l'Union européenne. Enfin, le principe de l'engagement conjoint des partenaires transatlantiques devrait être appliqué à toutes les missions et opérations de l'OTAN. Il existe une tentation naturelle, une tentation d'une certaine division, répartition des domaines de responsabilité entre les alliés nord-américains et européens. Toutefois, à long terme, la notion de division du travail, de répartition du travail, pourrait conduire à la fragmentation de l'Alliance. Nous devrions nous réengager dans l'approche des opérations sur base du principe entrer ensemble et sortir ensemble, partir ensemble, qui nous a bien servi en Afghanistan d'ailleurs tout au long de l'été 2021. Face à l'effondrement rapide de l'administration du président Ghani, les soldats et le personnel civil alliés ont travaillé ensemble pour assurer l'évacuation en toute sécurité de plus de 120 citoyens alliés ressortissants de pays partenaires et afghans en danger. Et cela dans le cadre de l'une des opérations d'évacuation par pont aérien les plus gigantesques de l'histoire moderne. Cela dit, les enseignements tirés de notre engagement en Afghanistan constituent un sujet très vaste et sensible qui nécessite une analyse approfondie. Ce qui fera d'ailleurs l'objet de mon prochain rapport. Avec votre approbation, le rapport des prochaines années du sous-comité sera consacré à une telle analyse, portant donc sur les enseignements à tirer de notre engagement en Afghanistan et de ce qui a été jusqu'ici la seule opération article 5 de l'Alliance. Chers collègues, nous vivons dans un monde de plus en plus complexe. Il est naturel que nos pays aient parfois des intérêts et des priorités divergents, y compris en matière de sécurité et de défense. Mais malgré cela, l'OTAN continue de démontrer sa capacité à trouver un consensus entre 30 alliés et à s'acquitter des tâches essentielles que sont la défense collective, la gestion de crise et la sécurité en coopération. En effet, les alliés nord-américains et européens continuent de partager au sein de l'Alliance de nombreux intérêts et de nombreuses valeurs démocratiques qui ont contribué à ancrer les relations transatlantiques depuis la création de l'Alliance. Avec la prochaine révision du concept stratégique de l'OTAN, nous avons clairement l'occasion de sceller une nouvelle stratégie transatlantique adaptée à l'environnement de sécurité en pleine évolution que nous connaissons et aussi un concept stratégique qui exploite tout le potentiel de notre relation unique. Chers collègues, je vous remercie de votre attention. Comme toujours, j'attends avec intérêt vos commentaires sur ce rapport. L'Alliance est importante. Avoir des alliés, avoir des amis est important. Et je pense que nous devons valoriser cette alliance à maxima. Merci, Monsieur le Président. J'espère que mon exposé a été assez complet. Je vous remercie. Je tiens à remercier également Andreus qui m'a considérablement épaulé dans l'élaboration de ce rapport. Merci. C'est un rapport qui, comme toujours, lorsque vous le rédigez, est très bien écrit. C'est une analyse très complète qui aborde un certain nombre de décisions importantes auxquelles l'Alliance et les alliés doivent accorder toute l'attention requise. Je pense qu'à ce stade, personne n'a demandé à poser de questions, ni n'a demandé à exprimer de commentaires. Si. Lord Hamilton. Merci, Monsieur le Président. Désolé. Et l'un des rôles essentiels de l'OTAN doit être d'organiser des coalitions de bonne volonté, d'être une organisation fêtière. Rechercher l'appui et l'aval de tous les membres de l'Alliance sur tous les dossiers me paraît difficile, mais je pense que l'on peut aussi recourir à ce format des coalitions de bonne volonté. Souhaitez-vous répondre, monsieur le rapporteur? Merci. À propos du Conseil et du processus décisionnel, le consensus reste bien sûr la meilleure solution, mais il est vrai que dans certains cas, des groupements ad hoc de pays souhaitant agir sur certains dossiers peuvent être bien utiles. Il faut pouvoir faire preuve de souplesse lors d'initiatives de ce type. Merci. Je ne pense pas qu'il y ait d'autres questions ni commentaires. Le vote sur le rapport est reporté à cet après-midi afin de permettre à nos amis du continent nord-américain de participer au vote s'ils le souhaitent. Merci aux auteurs du rapport pour ce dossier très détaillé et ce rapport très complet. Moyennant cela, nous allons prendre la pause déjeuner. Je vous invite à revenir à 14h pour aborder le vote des divers rapports qui nous ont été soumis, les amendements au rapport de Mme Crimi, et puis nous avons ensuite un projet de résolution qui nous sera présenté par le rapporteur, après quoi nous aborderons l'élection des membres du bureau de la commission des sous-commissions, après quoi vous serez libérés pour profiter du soleil dominical de cette magnifique cité. La séance est suspendue, nous nous retrouvons à 14h précise.